Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Hier Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jeanne Van Mankhoven. Bonjour.
Hello.
Jeanne, comment vas-tu ?
Bien.
Tu es là avec un beau soleil et puis une fraîcheur matinale ce vendredi matin et tu es ici pour nous parler d'abord de ta pratique artistique et puis aussi pour nous annoncer entre autres ton passage parmi une exposition collective qui aura lieu ce 1er et 2 octobre dans le cadre de Tipon Tampon. Avant tout Jeanne, tu es artiste, qu'est-ce qui t'a amené justement à l'être ?
Waouh, quelle question. Je pense notamment, justement, parce que j'expose à la Griotte début octobre, que c'est un des lieux qui m'a vraiment le plus porté, parce que j'ai passé mon adolescence là-bas. Et quelques artistes qui étaient là-bas, notamment Thibaut Parsi, qui faisait des aquariums avec des poissons articulés. Je crois qu'il y avait de l'eau et des lumières. Voilà, puis ma mère aussi, ma mère qui m'a énormément soutenue, qui m'a toujours encouragée à faire tout un tas de choses et qui m'a inscrite à des ateliers d'art-thérapie très jeune, quoi, 8-9 ans, quelque chose comme ça.
De là, les premiers contacts avec le dessin, la pratique de toutes sortes de modes d'expression, peinture,
ouais.
Sculpture aussi.
Ouais, c'est ça. Bah, là, quand on était enfant, nous, on faisait de la relaxation et ensuite on peignait avec les mains. Et de là, on sortait un fil narratif, on racontait des histoires, quoi. On faisait des livres avec ça, c'était une nana qui était éducatrice jeunes enfants. Et ma mère était directrice de centre aéré aussi, donc elle nous a toujours emmenés à droite à gauche, faire des sorties, et aussi, c'est quelqu'un qui bricolait beaucoup. Voilà, donc effectivement, j'ai été assez rapidement amenée à avoir différentes pratiques. Et puis, il y a quelques années, je me suis complètement fixée sur le dessin. J'avais plutôt fait du cinéma aux Beaux-Arts. Et puis, en fait, je crois que je me reconnais plus dans le milieu de la bande dessinée et du dessin. Et puis, je trouve que c'est vraiment un média qui est abordable, facile à transporter. Voilà, ça peut être après ça peut être très chronophage, j'ai pas vraiment de planning quand je travaille, c'est-à-dire je peux arrêter pendant des mois et puis d'un coup je m'y mets et je dessine 12 heures par jour et donc tout ce que je le fais en dessinant. Les gens qui sont à côté de moi doivent supporter un peu ça aussi.
Lorsque tu abordes la facture d'un dessin, est-ce que tu pars d'un modèle ou alors tout est issu d'imaginaire et en même temps d'une culture générale, puisque je vois des animaux. Est-ce que cette pratique t'a permis d'avoir finalement une écriture de ce que tu dessines ?
Alors il faut dire que j'ai assez peu accès au sens de ce que je fais. Ça a jamais été quelque chose avec laquelle je me posais des questions. J'ai vraiment une pratique très empirique, assez peu théorique, même si j'aime ça, et que au Beaux-Arts on a été un peu biberonné à Deleuze, Foucault, etc., Gamben, un peu des références de base, mais en fait j'ai toujours eu des gestes assez spontanés. Donc il y a une partie de mon travail qui est relativement spontanée et qui tiendrait quasiment plus de ce qu'on appelle de l'art-thérapie, je dirais, quelque chose d'une expression libre. Et puis à d'autres moments, les animaux et les végétaux, c'est vraiment mes sujets de prédilection. Et là, j'essaye de rentrer plutôt dans du dessin académique d'observation, c'est-à-dire je prends un objet et j'essaye de le reproduire comme je le vois. Mais toujours avec un espèce de fond. Par exemple, j'ai eu des pratiques avec des encres. Là, c'est complètement accidentel et la question de l'accident dans les arts plastiques, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. parce qu'on peut lâcher prise et parce qu'il y a toujours des très bonnes surprises. Donc les encres, le café, le vernis à ongles, et puis un rapport à, ouais, du coup, à, je pense au café, là, il y a un rapport à l'organique assez directement. J'ai grandi dans un jardin, donc toute petite, je me souviens. Je partais au bord de la rivière pendant des heures, j'étais dans les arbres. Donc je pense que c'est de là dont arrive ce thème de prédilection qui est la faune et la flore.
Mais je reviens aux animaux, par exemple, ou aux plantes. Est-ce que tu pars d'un modèle réel, même si parfois ce sont des félins d'Afrique? Est-ce que j'imagine que là, c'est plus des traces ou des sources iconographiques?
Ouais. Souvent, je pars d'images. Et après, quand on apprend le dessin en modèle vivant, notamment, on apprend à travailler avec des sujets qui bougent. C'est vrai que moi, je suis plus dans du statique, quoi.
Et puis, il n'y a pas d'âge pour apprendre à dessiner, hein, de toute manière. Et comment est arrivée cette idée aussi de superposition de sujets sur le même support ?
C'est une très bonne question. Je ne sais même pas si je saurais y répondre. J'imagine que y a une espèce de... De toute façon, il y a un travail qui est très... très obsessionnel dans ce que je fais, je crois. Et si c'était uniquement des dessins mis à la suite les uns des autres, sans aucun volume, j'aurais peut-être l'impression que ça raconterait rien, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, je cherche vraiment... C'est peut-être un peu quelque chose qui est issu du cinéma, parce que dans le cinéma, on apprend qu'il faut deux ou trois images, quoi, pour faire une narration. Et effectivement, une image seule, elle raconte rien. Elle a besoin d'une autre image à côté d'elle. C'est peut-être ça.
La couleur, pareil, elle est appliquée avec des propositions qui sortent des normes un peu.
Ah oui, mais t'es le deuxième à me faire ce retour-là. Ouais. Je suis sans réponse face à ces questions-là.
Les questions viendront, hein, je pense. Mais il y a quand même quelque chose qui permet de l'affirmer, cette pratique de la couleur. Est-ce qu'il y a un côté esthétique pour toi à développer ?
J'adore la couleur, en fait. J'adore la couleur très clairement. Je suis incapable de dire quelle est ma couleur préférée, même si j'adore le bleu. Et aussi, je trouve ça intéressant d'aller chercher à la fois du côté des pastels, des camaïeux, et à la fois aller superposer des couleurs qui n'ont rien à voir, qui sont plus de l'ordre du fluo. Et le doré aussi, moi je trouve ça très satisfaisant, le doré. J'avais vu une conférence de Michel Pastoureau à Bordeaux qui était hyper intéressante, où il racontait que les couleurs vraiment très monotones étaient liées au catholicisme, et que dans la mode ça transparaît quand même beaucoup, les gens s'habillent beaucoup en gris, en noir, et il y avait des couleurs dans l'église qui étaient relativement mal vues, quoi. Notamment le jaune, moi j'adore le jaune.
Et puis il y a ce bleu de la Vierge, ce bleu que toi tu aimes, il y a aussi ce bleu de Yves Klein.
Ouais, le Klein.
Qu'est-ce que t'ont inspiré justement ces bleus ?
Je crois que en ce moment j'ai pas mal de... Enfin, je traite pas mal des sujets liés à la mer, des monstres marins, etc. Et donc là je suis allée chercher, pour l'exposition de Typon Tampon, je suis allée chercher tous les bleus que j'avais sous la main et tous les verts. Et j'ai mélangé un peu tout ça avec du café.
Tu en as quantifié combien de ces couleurs ?
Je dirais qu'il doit y en avoir une cinquantaine. J'ai ramené la fiche, je te la montrerai après.
Très bien, je pourrais peut-être mettre l'illustration aussi.
Ouais, ok, hein, ça marche.
Et c'est bleu, justement la couleur, tu utilises des matériaux qui sont proposés dans le commerce, ou alors est-ce que tu tendrais aussi à créer tes propres couleurs, ton propre matériau, tes pigments ?
Alors j'ai une amie qui développe ça à Bordeaux avec des plantes et j'avais très envie qu'on expérimente des sérigraphies avec ça parce que la sérigraphie en soi c'est quand même, enfin traditionnellement c'est relativement polluant je trouve. Ça on l'a pas encore fait. Après moi ce qui me plaît notamment avec le café c'est que ça permet des accidents sur la page, le fait qu'il y ait des textures aussi, donc je peux rajouter de temps en temps des grains de café ou du sel, ce qui fait que ça absorbe la matière ou ça la rejette. Et là, ça provoque aussi des choses qui ressemblent vraiment à des réseaux veineux. Ça, je trouve ça super. Après, dans les matériaux, c'est des choses très standards, hein, du Posca, du marqueur, du crayon gris, pas mal de bic, de l'acrylique.
Tu as tenté aussi d'autres expériences avec d'autres modes de gravure, que ce soit le lino, l'eau forte.
Alors, tétragravure, j'ai fait des jeux au printemps, des jeux de cartes, un jeu de belote 32 cartes qui a été tétragravé. Donc, c'est avec une machine pour fabriquer les pâtes artisanales qui est détournée en machine à graver. Ça, c'est une des choses que j'estime très intéressante en atelier, parce que ça fait aussi plusieurs années que j'anime des ateliers, et en fait, ça permet de transmettre l'idée aux jeunes avec qui je travaille qu'on va pouvoir faire de la gravure à peu de frais, parce qu'en fait, une machine à pâte, ça vaut 30 euros. Une machine à gravure traditionnelle, c'est très très cher, quoi. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un matériau qui peut se une machine qui peut se transporter partout. Et qui permet de s'exprimer à tout le monde.
Et puis pour la gravure, il y a le support, hein, le papier. Est-ce que tu as des exigences pour ce papier ? Ou alors, est-ce que tu prends aussi ce que tu récupères en quelque sorte ?
Alors pour les papiers gravure, je crois que spécifiquement, il faut quand même des papiers aquarellables avec un grammage relativement épais, etc. Donc j'achète pas mal de papiers dans le commerce. Ensuite, quand je fais des livres, c'est pareil, je vais chez l'imprimeur, je me déplace, je regarde. Voilà, c'est comme dans le milieu du textile, c'est pareil, il y a des grammages. C'est des choses importantes d'aller voir la matière en direct. Après, la récupération, je la fais plus parce qu'en tétragravure, de toute façon, on utilise des packs de lait ou de jus de fruits. Et donc là, il faut découper dans la matière pour avoir la matrice à graver.
Il y a justement pour le papier, est-ce que on parle de l'augmentation ou la rareté du papier aujourd'hui à cause de multiples raisons? Est-ce que tu as remarqué aussi la valeur du papier a-t-elle pris un essor?
J'ai pas vraiment regardé ça parce que je dois dire que l'essentiel de ce que je gagne dans la vie est complètement réinjecté dans les arts plastiques.
Oui, en fait, c'était juste pour savoir si c'était un frein à la création. Est-ce que tu pressens une espèce de monopole du papier en France qui puisse empêcher justement, comme cela est déjà pour des maisons d'édition, pour les artistes, est-ce qu'on peut craindre cet aspect-là?
C'est une bonne question, mais je pense pas que ça puisse arrêter un artiste. Enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arrêter un artiste dans sa production. On trouvera toujours des solutions.
Et alors, ces dessins, tu proposes aussi des versions sur impression sur tissu.
Ouais.
Et tu en as établi aussi une activité rentable quelque part. Et tu proposes divers types de linge, que ce soit du linge ou du vêtement.
Oui, ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire des recherches sur le textile. Donc j'ai imprimé des premiers essais il y a un peu plus de 2 ans. C'était juste avant la pandémie, il me semble. Et puis, moi, je ne viens pas du milieu du textile. Du coup, il a fallu un peu comprendre comment ça fonctionnait, etc. Les différentes qualités de tissus. Et là, on a eu des échantillons il y a un peu plus d'un an qui était satisfaisant et j'ai eu envie de faire des housses de couette avec mes dessins dessus. Donc il y a un modèle enfant, un modèle deux places et un modèle king size. Et du coup, c'est des productions en série très limitées dans lesquelles j'ai injecté beaucoup d'argent parce que je voulais une matière première qui soit belle et qui tienne dans le temps. Et puis il y a une couturière du coup qui se charge de toute la couture. Donc on a honoré il me semble une vingtaine de commandes. Et puis là au printemps on a eu envie de faire du jogging aussi, pantalon de jogging. Donc pour l'automne là on a déjà eu une précommande d'un jogging dont je cherche encore le velours de mes rêves, mais je l'ai pas encore trouvé.
Justement, ces textiles, que ce soit naturel ou de synthèse, peu importe pour toi.
Je crois que dans l'urgence dans laquelle on se trouve, il y a effectivement un paradoxe qui est à la fois, il y a une course au progrès qui, à mon avis, serait bon d'arrêter. Et d'un autre côté, il y a une espèce de, comment dire, d'empressement à produire avec une espèce d'angoisse de la fin du monde, qui est une phrase très à la mode, mais j'ai toujours eu une espèce d'urgence à produire et qui prend un peu le dessus sur le reste. Après, j'ai aussi l'impression qu'on a été habitué à effectivement acheter des choses qui sont pas chères, qui viennent de l'autre bout du monde, et donc on n'a plus trop l'habitude de payer des artisans pour ça. Là, justement, pour la question du velours, très précisément, j'ai dû me poser la question à la fois écologique et humaine, parce que j'ai trouvé des velours de soie sur Internet et je me suis dit, en fait, si ça vient de Chine et que ça a été produit par des Ouïghours, il est hors de question d'en acheter, quoi.
Est-ce qu'il existe d'ailleurs un salon du textile en France, quelque part, qui permette justement d'avoir un point de vue sur tout ce qui est proposé sur le commerce ?
Alors, il y a très clairement des salons textiles. Je pense à un qui s'appelle Première Vision. Mais après, à mon avis, en termes de transparence sur l'origine des choses, ça ne doit pas être très clair. Donc voilà, je ne saurais pas t'orienter vers un salon dit éthique.
Il y a l'œuvre artistique et puis le produit commercial que tu proposes donc. Mmh. Est-ce que tu pourrais déterminer aussi l'un et l'autre dans cette même démarche ? En tant qu'œuvre artistique, est-ce que tu peux prétendre utiliser des textiles qui sont beaucoup plus chers ?
Oui, je pense que ça pourrait se faire. Je pense que mon premier livre a été créé sur ce mode-là. C'était en 2019, c'était un financement Ulule, il a été financé à 117%. Et en fait, j'avais fait des devis avec des imprimeurs locaux à Bordeaux. Et effectivement, c'est un imprimeur de Bordeaux qui l'a sorti. C'est un objet qui, du coup, ça venait effectivement poser des questions au niveau social, parce que c'est un livre qui est à 32 €, quoi. Donc moi je trouvais que c'était trop élevé, mais à la fois soit on sort des livres qui sont un peu chers mais qui sont produits localement, soit on les fait à l'autre bout du monde et ils sont beaucoup moins. Donc tu vois, il y a la question sociale et la question écologique qui vient encore sortir des paradoxes, quoi. Et je pense que dans le textile, c'est exactement la même question.
Tu as pratiqué une école d'art à Grenoble. Et qu'est-ce qu'on vous y apprend, justement, pour développer votre activité artistique et de vous faire connaître, justement, auprès d'un public ?
Disons que à l'époque, moi, quand je traînais à l'école, j'étais pas tellement versée sur ces questions-là. J'avais pas franchement décidé d'en vivre, et j'étais plutôt dans l'expérimentation brute. Et en plus, je voulais faire du cinéma, donc c'était encore d'autres questions, un autre milieu, d'autres pratiques, etc. Et à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, il y avait quand même tout un courant extrêmement critique vis-à-vis du milieu de l'art, de son institutionnalisation, etc. Après, moi, il a fallu un peu que je, comment dire, que je sorte de ces idées-là, parce qu'il y a un moment donné où j'ai pris le choix clairement d'en vivre, de me dire que j'étais légitime dans ce que je faisais, et que entre ça ou aller travailler 35 heures dans un supermarché pour gagner ma vie, le choix était vite résolu pour moi.
D'ailleurs, est-ce que cette école d'art a transformé ton travail artistique ?
Alors, je pense que oui, mais précisément pas dans le dessin, parce que je faisais pas de dessin. Enfin, je dessinais quand j'étais aux Beaux-Arts, mais je dessinais dans des carnets que je sortais pas du tout. Donc, c'est pas des choses qui ont été impactantes dans le dessin. C'est plus... Après, j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital et j'ai appris le dessin à des jeunes qui étaient hospitalisés. On a fait de la réhabilitation sociale et à ce moment-là... le dessin a vraiment pris un tournant d'un point de vue dessin académique.
Qu'est-ce que tu vas nous présenter ces 1er et 2 octobre dans Tipon Tampon ?
Alors, je vais avoir un stand de 2 mètres ou 3 mètres, a priori, sur lequel il y aura un exemplaire de la housse de couette issue du dessin La Carte au Trésor. Des badges, des petites pochettes en tissu et puis tout un tas d'originaux, de reproductions et de sérigraphies, des cartes postales et puis il y a quelques petites surprises aussi, notamment pour les enfants. Et dans la salle d'exposition, je pense que je vais présenter 2 travaux, donc l'original de la carte au trésor, qui a servi à faire des housses de couette ensuite, qui est un format A0 qui est quand même assez conséquent. Tout a été fait entièrement à la main parce que je travaille sans numérique, donc dessin d'observation, j'ai mis tout un tas d'animaux, c'est un grand bestiaire avec plein de couleurs, et à côté un petit format qui s'appelle L'oiseau roi, le ventre de la baleine et d'Agobert, qui est la sérigraphie dont je te parlais tout à l'heure, qui est une sérigraphie que j'ai reprise en dessin par-dessus.
Jeanne, il y a aussi un moyen de découvrir ton travail, c'est en allant sur Internet.
Oui, je me suis inscrite sur Facebook, du coup, depuis 2017, mon travail est accessible sur les réseaux sociaux, Instagram aussi, donc à mon nom, Jeanne Van Monkhoven. Et sinon, j'ai un site qui est un peu en rade en ce moment, mais qu'on va remettre au goût du jour, parce que je viens d'embaucher une agent d'illustratrice qui va sans doute remettre les mains dans le cambouis.
La question revient, c'était par rapport, je parlais de ton travail plastique sur cette superposition, sur ces superpositions de sujets, sur un même modèle, sur un même sujet. Est-ce que d'autres arts t'inspirent sur cet aspect-là? On peut parler, toi tu parlais du cinéma, tu te réfères au cinéma où il fallait 2 ou 3 images pour amener une narration. Est-ce que la musique ou le son aussi t'inspire?
J'ai un rapport à la musique qui est extrêmement conséquent. J'écoute des choses très variées, ça va du rap à la musique classique, en passant par les chants polyphoniques basques ou corses. Effectivement, quand tu me parlais de superposition, je pensais à notamment ce groupe de musique qui s'appelle Beluguetta. Bon, on pourrait peut-être passer une de leurs pistes d'ailleurs. J'ai fait un peu de chant l'an dernier parce que je fais aussi des stages de clown régulièrement. Et c'était un stage clown et voix, et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment... Enfin, moi, j'adore ça. Ouais.
Et puis, de temps en temps, on peut te croiser dans les rues de Die, et de là, peut-être même en train de dessiner.
Ça arrive assez rarement. Si, de temps en temps, dans un café, mais c'est vrai que... Le dessin, il arrive plutôt quand je suis dans un jardin, en fait. Déjà, jamais en ville. Et après, Rue Nouvelle a dit, cet été, j'ai fait une mosaïque au mois de juillet. On m'avait passé commande, j'avais carte blanche. On peut aller voir la mosaïque issue de la gravure de Hokusai, dans le bas de la Rue Nouvelle a dit.
Eh bien Jeanne, je te remercie d'être venue nous parler de ton exposition parmi celles collectives, qui aura lieu donc au festival Tipon Tampon le 1er et 2 octobre à l'ancienne usine Saint-Éloi, à La Griotte. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Et nous allons nous quitter avec donc le groupe que tu nous proposes.
Belugata.
Belugata, est-ce que tu peux nous en parler rapidement un petit peu?
C'est un groupe que j'ai découvert avec un ami qui est berger et qui écoute beaucoup de chants polyphoniques. Et puis, je suis allée les voir en concert à Grenoble. Ils sont passés en septembre dernier. Et c'était vraiment super plaisant. Je les ai contactés parce que je voulais les inviter à Die. Donc peut-être qu'on arrivera à les programmer l'été prochain, ce serait super. Ils avaient très envie que je fasse leur pochette d'album et puis finalement je crois qu'ils ont eu quelques soucis pour le financement, donc finalement ça s'est pas fait, mais peut-être que ça se fera un jour. Et voilà, il faudra que je te retrouve le nom de la piste. J'avais une autre chose à te dire, c'est que j'ai aussi un vernissage le jeudi 29 septembre à 18h30 devant la mairie de Fontaine, dans le cadre des ateliers qu'on a menés avec la galerie Space Junk autour de la prévention du cancer du sein.
Fontaine, on peut situer ?
Fontaine, c'est à côté de Grenoble.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Salut.
Santo Vierge dell'Escuro, Santo Vierge dell'Escuro, Santo Vierge dell'Escuro, giusto un mantel de furu, giusto un mantel negre de flus, 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 tu un cor se scappo di bel tabucco, tu un cor se scappo di bel tabucco. Un cor se scappa di petta buco, 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 la nuit toscana in culi su un mondo, la nuit toscana in culi su un mondo, lei se svira se pregario per de pregario perdido. Te calumatite turno trapa, te masa masa tascravos. Te calumatite turno trapa, te masa masa tascravos. Plenos de lache de furio, plenos de lache de furio. Plenos de lache de fulio, plenos de lache de fulio, pedubidos per un moment, pedubidos per un moment, pedubidos per un moment, pedubidos per un moment. Tu sum mai largo amoroso, en tu sum mai largo amoroso, en tu sum mai largo amoroso, en tu sum mai largo amoroso. Un cor se scappa di petta buco, 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 un cor se scappa di petta buco. bramo, bramino suso, che me crevo il ventre, susino bramo, bramino suso, de Pastro, a metto un trupel,
es verdad que si os la reino. Cremos pastro, a metto un trupel, es verdad que si os la reino. Desulíos humo del ver, desulíos humo del ver, desulíos humo del ver, desulíos humo del ver. Ma per tanque sforto, etama per tanque sforto, etama per tanque sforto.
Sen grino so cagando, sen grino so cagando, sen grino so cagando, sen grino so cagando.